L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Hauteurs de Némac, dans le jardin, dans le grand jardin de. Le jardin forêt de Lionel.
Ouais, le jardin forêt, c'est ça, c'est un jardin forêt qui est. Bah, j'ai commencé à travailler en 2010 et dans lequel il y a plusieurs peuplements. C'est organisé naturellement par endroit. Il y a un verger, il y a un bosquet, il y a un potager. Et là, on est dans un bosquet d'ormes. C'est des ormes champêtres. C'est que des ormes champêtres, voilà.
Il y a des choses que tu as plantées ou c'est...
C'est totalement... Non, j'ai travaillé avec l'existant. Donc c'est tout est travaillé... travaillé, on va dire. On vit avec eux, quoi, on cohabite. Et là, ça, c'est spontané. Hein. Il y a les parents qui sont là-bas. C'est des grands ormes qui sont en bordure. Et là, on est sur un cône de régénération. Non seulement par graines, il y a eu des graines qui se sont installées, mais il y a également des drageons, c'est par drageonnage aussi, où ça ressurgit par les racines en fait. Voilà, et donc bah, là l'idée c'est de t'emmener ici un peu pour parler continuer à parler des outils. C'est vrai qu'après on pourra en refaire une chronique sur le jardin, il y aurait matière à dire.
On fera une spéciale sur ton jardin.
Voilà, sur le jardin.
Alors donc on va parler outils, mais on va parler outils, on n'est pas là juste pour parler outils dans l'abstrait, c'est parce que tu vas t'en servir pour continuer à aménager un peu ce jardin, c'est ça?
Voilà, bah donc il y a une éclaircie à faire là sur le peuplement d'ormes, donc on va juste, pour se mettre en situation d'utilisation des outils du bûcheron, donc on est dans la deuxième chronique sur la série des outils, hein. J'avais parlé de la tronçonneuse la dernière fois, donc là on va continuer avec les petits outils portatifs du bûcheron. Les outils qui permettent au bûcheron de lui faciliter son travail en fait, dans la manutention du bois et puis dans l'entretien de la tronçonneuse. Voilà. Donc on peut commencer à parler, bah, par exemple là sur moi j'ai un baudrier en fait, sur lequel il y a pas mal de petits matériels. Il y a ici un rouleau, un mètre en rouleur. Qui permet de mesurer les billons, la longueur des billons.
Ah, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est les vieux mètres. T'as pas des mètres laser connectés.
Non, on reste quand même avec une valeur sûre. Bah, c'est quelque chose qu'il faut étalonner. Hein. Un métrologue, il te dira qu'il faut être précis dans sa mesure. Donc le bûcheron doit être précis. Hein, il doit être précis dans sa mesure. Donc il y a le mètre en rouleur. Voilà. Avec ici aussi, on se sert d'un pied à coulisse. D'un compas, tu vois, qui permet de prendre les diamètres des billons, parce qu'on va travailler surtout en fonction des diamètres. Parce qu'après la scierie, ben, il faut que la scie elle puisse travailler correctement le bois et optimiser la matière bois au maximum. Donc le bûcheron, ce qui conditionne la longueur, ben, c'est le diamètre gros bout du billon et le diamètre fin bout du billon. Voilà, donc on travaille avec ça, c'est les outils de mesure.
Parce que si tu te plantes, ça peut éventuellement ne pas passer dans le banc de scierie, quoi.
Voilà, exactement. Ça peut même être refoulé à l'entrée de l'usine de transformation. Si les produits sont pas conformes en termes de dimension, bah, le camion, il repart. Voilà, il repart bredouille, on va dire.
Alors, il mesure jusqu'à quel diamètre, ce compas?
Celui-là, c'est un petit compas d'exploitation. Il va jusqu'à 40 cm. Mais après, il en existe des plus grands. On peut aller jusqu'à 1,20 m, quoi.
Parce que 40 cm, c'est quand même pas très gros.
Ouais, c'est pas très gros. Bah, ça, c'est vraiment pour du billon. Hein, on travaille... Là, aujourd'hui, je suis un bûcheron équipé pour travailler sur du billon. Donc, les outils de mesure, ils sont conformes au billon. On peut utiliser, pour mesurer aussi les longueurs, on peut utiliser des mètres à pointe. Mètres à pointe, mais ça se fait plus. Aujourd'hui, les bûcherons, ils travaillent beaucoup avec des piges. Ils fabriquent leurs piges eux-mêmes. C'est des piges d'un mètre. Quand tu fais ton bois de chauffage, tu fabriques ta pige. Après, bah, sur mon baudrier, bah, j'ai des outils de traçage. Donc une bombe de peinture, ça peut être aussi une rainette pour marquer le bois, en fait, pour marquer les traits ou pour faire de la désignation sur le bois.
Donc quoi, c'est alors, pour dire les arbres que tu gardes, les arbres que tu coupes, c'est ça?
Ouais, et puis également, voilà, c'est ça, ouais, pour faire de la désignation. Alors généralement, ça c'est le gestionnaire qui fait le marquage, mais bon, en bûcheron, c'est toujours bien d'avoir une petite bombe de peinture pour se faire des traces, ou d'avoir la rainette. Une rainette, c'est une griffe qui va servir à griffer l'écorce, voilà. Après, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ma trousse de secours, là. Alors, la trousse de secours, elle est obligatoire pour le bûcheron. Tous les chantiers en bûcheronnage, même en bûcheronnage amateur, c'est bien d'avoir une trousse de secours avec au moins un pansement compressif. Mais ça, on en reparlera un peu dans les équipements de protection. Ça sera la prochaine chronique sur les outils. On parlera de tous les équipements de protection individuels. Donc la trousse de secours avec le pansement compressif dans le cas où j'ai une plaie ouverte qui saigne abondamment, quoi. Voilà. Et puis après, bah, j'ai la serpe. La serpe, elle, c'est le prolongement de la main. La serpe, ça permet de manutentionner. On commence à arriver dans le matériel de manutention. Donc la serpe, c'est un outil qui tranche, mais c'est aussi un outil qui pique. Et ça sert à aller piquer le bois. Donc on va piquer le bois à terre pour pouvoir le piler, en fait. Et puis ensuite, avec le côté tranchant de la serpe, on va pouvoir couper les branches qui restent sur le billon. J'ai la sapie. C'est pas mal.
Décris-nous ça, parce que c'est pour le coup la serpe, on voit à peu près la forme. Ouais. Sapie, un peu moins.
Alors la sapie, donc c'est un outil qui est donc c'est un manche. Au bout de du manche, là où on met la main, il y a un ergot qui permet d'arrêter, comme sur la serpe, qui permet d'arrêter la main. Et puis sur l'outil qui va aller chercher le bois, enfin sur la partie qui va chercher le bois, on a une pointe qui permet d'aller. Mais de toute façon, après, je vais travailler avec. Et puis, ça va permettre d'aller chercher de piquer le bois tout en gardant le dos droit. Le bûcheron, l'idée, c'est qu'il évite de se baisser. Il travaille au maximum le dos droit, toujours. Ça, c'est sur les gestes et postures. C'est avoir au maximum le dos droit. Donc, c'est forcément travailler un peu plus avec les genoux, quoi. Ça doit être le prolongement de la main. On va aller piquer le bois et puis on va aller le redresser pour le chercher et pour ensuite le porter. Toujours en ayant les jambes droites, quoi. En ayant le dos surtout droit, quoi.
Voilà, on peut entendre les cloches, ça vous prouve bien qu'on est à Meymac et qu'on n'est pas au fond de la forêt.
C'est ça. Et puis, ça c'est pratique les cloches, parce que ça permet de savoir quelle heure il est quand on travaille. Donc on n'a pas besoin de regarder la montre. Voilà, et puis après, tu vois, ça c'est un baudrier qui est pas mal pratique, hein. Parce que ça permet... Alors j'ai le sifflet aussi. Alors là, le sifflet, c'est pour prévenir. Tu vois, le sifflet, là. Voilà, donc ça, c'est pour prévenir soit l'abattage d'un arbre, soit l'arrêt du chantier. Par exemple, si on a un problème sur le chantier, pour prévenir les autres opérateurs autour, ça permet d'arrêter le chantier aussi. En fait, le sifflet, on s'en sert qu'en cas de problème. Sur les abattages... Je m'en sers pas du tout, on criera plutôt attention. On dira attention et on sera vigilant à la présence des opérateurs autour de soi, surtout à ce que les opérateurs soient pas dans le périmètre d'abattage, quoi. Vas-y, après.
Je sais pas, on y va.
La manutention.
Tu vas abattre l'arbre et puis
On va abattre l'arbre et puis après on va le manutentionner. Voilà. Alors bien sûr, on va pas chercher à tirer des gros bouts de bois. Hein. Moi, ce que je dis souvent aux gars en bûcheronnage, c'est de travailler de manutentionner, on va dire, des bois qui font maximum 25 en gros bout, ou 25 cm en gros bout. Au-delà, c'est la machine qui va le faire. C'est le porteur. Après, le porteur, il est là aussi pour ça. Le tout, c'est qu'il faut être conscient quand on est bûcheron, c'est de faciliter le travail à tout le monde. Hein. On travaille en équipe. Les bûcherons en premier temps, ensuite c'est le débardeur. Ça va être aussi de travailler dans la suite logique du chantier, quoi, de faciliter aussi le travail du porteur, en essayant de rassembler au maximum les produits, les billons, pour que le porteur ensuite, lui, il économise ses coups de pince, quoi. Ses coups de grue, quoi. Et puis j'ai encore deux autres outils là.
Encore une pince, comme c'est beaucoup de pinces et de piques et de...
C'est ça, c'est beaucoup de... Alors c'est vrai que souvent on peut se dire, mais disons que le bûcheron il a tout ça, il est déjà fatigué avant même d'avoir coupé. Bon, en fait, le bûcheron, il amène pas forcément tout avec lui, parce qu'il travaille pas forcément tout en bois court. Il peut aussi travailler sur du bois long. Tu travailles en bois long, tu as moins de matériel à prendre. Mais c'est vrai que sur le bois court, bah là, par exemple, tu vois, j'ai un tournebille. Là, le tournebille, c'est un outil qui est, c'est un grand manche en acier, tu vois, sur lequel il y a ici un levier, en fait, en bas. Donc, le levier, il va servir... Il y a deux usages du tournebille. Il y a soit, avec le levier, on va le mettre dans le trait de scie, ensuite, on va pousser avec le trait de scie. Et donc, on va aller pousser l'arbre lors de sa chute pour l'aider à chuter, en fait. Donc, c'est un premier usage, hein. Ce tournebille va servir de levier d'abattage.
Ça, tu peux choisir un peu la direction aussi, un peu.
Voilà, c'est ça, ouais. Bah, je vais te faire la démonstration après, on va... Et puis, sur ce manche, donc en haut, il y a un bout caoutchouc pour le confort de la main. Et puis, sur ce manche, on a un crochet qui est attaché, qui permet donc d'aller piqueter le bois quand il est par terre, en fait. Le crochet, il va aller piqueter dans le bois. Et avec le levier en poussant, bah on va, ça va permettre au bois de se tourner sur lui-même. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un tournebille. On va tourner le bois sur lui-même pour aller, bien souvent, c'est pour aller façonner la face où il y a les branches contre terre. Pour bah, l'objectif du bûcheron, hein, c'est redonner sa cylindricité, la cylindricité au bois pour qu'il soit récoltable et ensuite transformable en scierie, quoi. Donc voilà, donc ça c'est tournebille, ça permet aux bûcherons de se sortir de pas mal de mauvais pas en forêt, notamment quand il coince la tronçonneuse, ou quand justement il doit reprendre les branches, voilà. Et puis enfin, il y a un dernier outil quand même, qui est le plus important, qui va être utilisé à l'abattage, c'est le merlin et le coin, voilà.
Le merlin, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de gros marteau avec une partie un peu hache et une partie...
Voilà, c'est ça. Alors, soit on va utiliser le merlin, effectivement, avec sa partie coupante et la partie, surtout, la masse. Soit on va utiliser qu'une masse. Le tout, c'est d'avoir une masse, en fait, qui soit plus ou moins lourde. Hein, il faut... celle-là, elle doit faire... je sais pas si elle fait pas 1 kilo, quoi. Elle commence à être déjà un peu lourde. Après, on peut utiliser une hache aussi, les haches, les petites haches, avec des coins. Alors, les coins, là, le coin qu'on a, que j'ai là, c'est un coin en aluminium. On privilégie plutôt l'usage des coins en aluminium, parce que ça fait moins d'éclat. On va dire que c'est un acier qui est plus mou. Et oui, quand on tape sur le... Tu vois, il y a des éclats, là, ici, hein, ça a éclaté pas mal. Et en fait, le problème de l'acier, c'est quand il éclate, eh ben, on peut s'en prendre des parties dans le corps, quoi. Moi, je connais des bûcherons qui ont des éclats de coins, soit dans le ventre, soit aussi ça peut transpercer la visière, et ils peuvent s'en prendre même dans la tête, quoi.
Ben voilà, on a vidé la besace.
Et alors le sac, c'est quand même pas mal. Parce que ça, c'est un sac de bûcheronnage qui permet... c'est un sac à dos, c'est un super sac. Par exemple, au CFPPA, tous les stagiaires sont équipés avec des sacs à dos comme ça. C'est un sac spécialement prévu pour le bûcheronnage, qui se met au dos et qui permet de transporter tout le matériel. En sachant qu'aujourd'hui, les bûcherons professionnels, ils privilégient plutôt l'usage de moyens de transport qui vont en forêt, par exemple, type quad. Le quad, c'est clair. On pourrait très bien demander aussi à un âne de nous accompagner au travail et de porter le matériel.
C'est ce qui se faisait
traditionnellement. Oui, ça se faisait. Bah ouais, le bûcheron travaillait beaucoup avec les chevaux et avec les ânes. Hein. La mule aussi, qui est un bon en mode batté, quoi, quand ils sont débourrés et... qui sont dressés, on va dire, à porter du matériel ou du bois. Et ça pourrait revenir, pourquoi pas, un jour. Voilà, ça consomme moins d'essence que... Voilà, ça consomme de l'avoine, mais l'avoine reste toujours moins chère que l'essence, quoi. Voilà. Bah, je fais une petite démo.
Allez, assez parlé, maintenant, faut bosser, Lionel.
Donc, dernier matériel aussi. On n'en a pas parlé, c'est le bidon à double compartiment, ou on peut l'appeler aussi nourrice, avec des becs verseurs qui sont bien prévus pour éviter de polluer. Donc c'est des becs verseurs automatiques. Donc d'un côté, il y a l'essence de temps, donc c'est un mélange de temps. Ou sinon, c'est de l'essence alkylate. Voilà, l'essence alkylate, c'est plus raffiné pour préserver les moteurs. Et voilà. Et puis on a l'huile de chêne de l'autre côté, dans l'autre compartiment. L'huile de chêne, ça c'est une huile biologique, parce qu'on a deux types d'huile, la biologique ou la minérale. La biologique, elle est intéressante parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que tout ce que tu mets dans ta tronçonneuse, ça finit par terre, l'huile. Et en fait, il vaut mieux, dans ce cas-là, plutôt privilégier l'utilisation d'huile biodégradable ou l'huile bio, on va dire, végétale. Il y a de l'huile à base de colza. Ça coûte un petit peu plus cher, mais au moins, t'as moins de regrets après, à la fin de la journée, en te disant, au moins, j'ai limité mon impact, quoi. Et puis, pour faire le plein, tu vois, j'ai un tapis. J'ai un tapis absorbant, parce que ça peut être pas mal. D'avoir un petit tapis absorbant, comme ça, quand je fais le plein, tu vois, hop. Et ben si je suis un peu pas bien réveillé, un peu gauche, là, le matin, là, et souvent, les stagiaires, c'est souvent le cas. Et ben si j'en mets un peu à côté, au moins, ça finit pas par terre, ça finit sur le tapis. Voilà. Et ça, c'est pas mal. C'est des bonnes habitudes de travail. Voilà. Et puis l'huile. Hop. Voilà. On est pas mal. Donc nous, c'est de l'huile bio, hein. Colza. C'est pratique. Et puis, je vais aller éclaircir. Alors, même si c'est plus la saison vraiment de couper, parce que là, on est en période d'humidification et puis on est en période de montée de sève, je vais regarder quand même qu'il n'y ait pas un nid dans le petit arbre que je vais couper. Et voilà, quoi, c'est bon. Hein. Là, je vais couper celui-là, tout petit. Et puis ensuite, on va manutentionner. Tu vas m'aider?
Allez, hein, petite question juste, je vois ton casque, t'as ton casque de protection, évidemment, t'as aussi des protections pour les oreilles.
Ouais.
Je vois une petite antenne qui dépasse d'une des oreilles, c'est la radio.
Alors ça, c'est pour être connecté entre opérateurs sur le chantier. Quand on travaille surtout en coactivité avec des engins, les engins, ils ont les talkie-walkie dans les engins, et nous, on peut leur parler directement. Quand tu fais du câblage, ou quand tu es loin sur un chantier où il y a peu de visibilité, où il y a un sous-étage qui est dense, c'est pratique de pouvoir se parler. Voilà, la communication est super importante. Hein. La communication, c'est...
Ouais, je suis un peu déçu. Moi, je pensais que c'était pour écouter Radio Vassivière en
aussi. Ouais, non, mais ceux-là, c'est que des émetteurs-récepteurs intercom. Mais effectivement, sinon, il y a d'autres marques de casques sur lesquels tu peux écouter la radio en travaillant. Ouais. Après, il faut rester concentré à ce qu'on fait, il faut rester focus. Parce que travailler avec la musique, oui, quand tu as une tâche répétitive qui engendre peu de risques, d'accord. Mais sur le bûcheronnage, il faut rester toujours vigilant et, je dirais même souvent, relever la tête et regarder autour de soi. Parce que si on est avec la musique, même Radio Vassivière, c'est vrai, on peut vite se déconcentrer et oublier que...
Allez, c'est parti.
Allez, c'est parti.
Alors, où est-ce que je me mets, là?
Alors là, tu vois, regarde, je vais l'envoyer par là.
Ouais.
On va l'envoyer dans son sens de chute presque naturel. Hein.
Okay.
Direction de chute naturelle, donc on va pas trop chercher à le contrarier.
Donc quoi, tu regardes en gros comment il est gaulé, l'arbre, c'est ça?
Dans l'imbrication des houppiers. Dans l'imbrication des houppiers, on va chercher ce que moi j'appelle le chemin de lumière. En fait, c'est là où il y a le plus de lumière qui apparaît. Et en fait, ici, on voit qu'on a un petit couloir qui se dégage bien et qui va lui permettre d'atteindre le sol le plus rapidement possible, parce que à l'abattage, c'est ça.
Et sans abîmer les autres...
Autres arbres, voilà, c'est ça.
Okay.
Voilà, donc une fois que j'ai déterminé la direction d'abattage, le sens d'abattage, je détermine la sécurité. Donc là, c'est les chemins de repli, tu vois, les chemins de repli, là. Donc tu vas te mettre à peu près au niveau des affaires, et puis on sera pas mal, quoi.
Ok, allez, bah, je m'y mets.
Il est un peu encroué, mais c'est pas grave, parce qu'on va... Comme c'est un petit arbre, hein, pour décrire l'arbre, quand même, c'est un arbre qui fait 10 cm de diamètre. Donc là, tu vois, il suffit que je le pousse un peu. Et là, en plus, je suis pas obligé de le faire toucher terre, parce que pour le façonner, ce sera plus facile, il sera à hauteur d'homme. Donc là, c'est un petit bois.
Voilà, il y a presque plus de lierre que de tronc.
Ouais. C'est bien ça pour l'élagage naturel, hein. Le lierre c'est génial. Ça permet d'avoir le fût à l'ombre et ça l'empêche de former des gourmands, c'est pas mal. Le lierre, gardez-le à tout prix. Le lierre c'est pas un parasite, c'est un végétal qui va se développer sur le support. Et puis tant qu'il atteint pas le bourgeon terminal, tout va bien. Et puis de toute façon, il atteint le bourgeon terminal, le lierre, que quand l'arbre est déjà mort. Donc, voilà. Et puis après, bah, on va débiter. Alors la tronçon, elle coupe pas trop. Donc le bûcheron, avec le matériel, il faut qu'il ait un outil d'affûtage. Voilà, donc il faut qu'il ait tout son matériel d'affûtage. Et là, tu vois, je les ai avec moi. C'est vrai que ça, c'est important d'en parler quand même.
C'est scénarisé, ce reportage, c'est incroyable. Les rebondissements, ils ressortent d'autres outils.
C'est ça. Alors là, tu vois, ça, c'est les limes d'affûtage. Il faut une lime ronde qui soit bien correspondante au pas de la chaîne, en fait. Donc ça voilà, ça c'est sur le matériel. Donc le kit d'affûtage.
Allez, au travail alors.
Voilà, affûte-nous ça. C'est parti, j'affûte. Donc il faut trouver sa position confort. Et puis on fait gaffe aux angles. On est sur des angles qui sont compris entre 25 et 35 degrés. Ça dépend des types de bois. Et alors, quand t'as commencé, faut finir. Hein. Et là, tu vois, la chaîne, elle arrive en fin de vie. Là, c'est la dernière fois qu'elle coupe, celle-là. Donc voilà. Et puis là, bah, je vais façonner. Hein. Allez, je vais billonner un peu. Quand même. Histoire de faire mon bois de chauffage. Parce que... Attention. Ensuite, ouais, je vais prendre par exemple la pince. La pince ou la sapie. Alors tu vois que la sapie, je vais la chercher là. Tac, et comme ça, j'ai pas besoin de me baisser. Hop, et je l'attrape comme ça. Donc ça va très bien. Et alors ce qui est génial avec la pince, c'est que tu peux saisir ton bout de bois et le jeter aussi. Sans te baisser. Et ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Voilà, bah sur les petits matériels, je crois qu'on a fait le tour. Hein.
Je crois que c'était bien complet.
Voilà, donc écoutez, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas, on prend contact. Et puis après, voilà, hein. Travailler bien en forêt, là c'est vrai que c'est plus trop la période. Mais par contre, c'est la bonne période pour préparer son matériel pour la prochaine saison de bûcheronnage qui attaquera au début août, on va dire.
Et puis pour faire, du coup, pour faire ces petites emplettes avec tous les outils que tu nous as présentés.
Ouais, voilà, voilà. Donc, liste de matériel, bah, à la limite, je pourrais la faire apparaître sur le podcast, voilà, sur radiovassivière.com. Voilà, on pense aussi bien fort à Abraham FM, qu'on embrasse. Et puis, voilà, on se dit à la prochaine, Raphaël.
Ouais, puis on va quand même se dire au revoir en musique, parce que c'est quand même l'onde du bois, même si on est en pleine forêt.
Voilà, bah alors forcément, pour finir une chronique sur les outils, j'ai pensé à Tool, groupe de métal, en plus outils en métal. Hein. Donc on est sur Tool, et bah voilà, par où commencer? On commencera, ouais, voilà, une chanson, on va dire, assez représentative. C'est, comment elle s'appelle cette chanson? Stick Fist, un truc comme ça. Ouais, parce que quand on retire ses gants, bah, on a un peu les mains qui puent, quoi. Hein, tu vois, moi, j'ai des... Tu vois,
ouais, c'est, je confirme, ça pue.
Donc voilà, donc, une fois qu'on a bien travaillé, on s'écoute un petit Tool avec Stick Fist.
Et c'est parti.